tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous, c'est lundi. Alors voici ce qui vous attend toute cette semaine, braquage en série dans la bande-annonce.
Des malfaiteurs habillés en gendarmes ont dérobé 15 millions de francs.
Un gang particulièrement bien organisé.
Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons.
Bonjour monsieur Bigrat.
J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent.
Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Nous n'investissons que dans des produits bio et équitables.
Vous spéculez sur le développement durable?
Non, nous le soutenons.
Je t'ai mis à ma place deux minutes.
Mais ils disent quoi? Je vous présente Vincent, il vient de sortir de prison, tu crois que c'est facile à dire?
Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes.
Si ce que je dis est vrai,
je tremble d'y mettre mon empreinte.
Si c'est un complot.
Si on n'était pas en guerre, j'aurais voulu être avec toi, refaire une vie avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire?
Le son, la voix de Yarol Poupeau en live, ce sera demain. Dans cette bande-annonce, il était aussi question de complot. Ça aussi, c'est pour demain. De bio pas équitable pour mercredi. De salaud de riche, c'est ce soir. Et puis des braquages avec le film de Denis Arcand pour mercredi. Le livre de Gilbertin, notre invité ce soir, avec à ses côtés Constance Dollet. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre énervé du soir. Nous sommes lundi 11 février, début de semaine et déjà coup double pour le énervé à écouter dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis bien sûr, 22h minuit, c'est à l'antenne sur France Inter, comme tout le monde. Ce soir, scène de crime avec nos invités, Constance Dollet qui invite ses spectateurs à table sur scène. C'est convivial, mais ça peut virer au drame dans Girls and Boys au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Constance Dollet, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un ex-punk, ex-braqueur, Gilbertin raconte tout dans 30 ans de cavale, parcours d'un musicien qui en 88 braque la Brinks de Toulouse avec ses potes artistes et militants d'extrême gauche, déguisé en gendarme. Gilbertin, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo, la chronique. Ce soir, vous nous invitez dans un festival, pas très loin, un festival parisien.
Tout à fait, je vous invite à visiter ou à faire un tour au festival nommé Au fil des voix, et qui a ouvert la 12e édition de ce festival la semaine dernière à Paris.
Et dans le énervé de la suite, une question, Christophe Bourseiller. Être riche en France, mais c'est interdit?
Oui, alors moi j'avais un autre titre, c'était « Salaud de riche ?» Point d'interrogation,
bien sûr.
Et on va en discuter en toute liberté, parce que moi j'adorerais
la liberté.
Être riche, et j'adore également la liberté. Donc il y aura Jean-Marc Daniel, qui est économiste, qui a signé Macron, la valse folle de Jupiter, entre autres, hein, bien sûr. Kevin Jay, lui c'était sociologue, et il vient de sortir un livre, évidemment, qui est sur le sujet, « Enquête sur les bourgeois, aux marges des beaux quartiers ». Thomas Guénolé, politologue, on continue, lui c'est un insoumis. Il a signé Antisocial, la guerre sociale est déclarée. Et enfin, face à lui, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP libérale. Et elle, elle a publié En marche vers l'immobilisme, 20 réformes lancées, 8 mai.
Le NRV, tous blindés, c'est parti.
France Inter, nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Je disais donc double scène de crime ce soir avec vous, Constance Dollet dans Girls and Boys, un drame familial de l'auteur anglais Denis Kelly. Braquage pour vous, Gilbertin, avec 30 ans de cavale où vous racontez votre parcours de musicien punk et de gangster chez Robert Laffont. Le braquage de la Brinks de Toulouse en 88. Ça vous dit quelque chose, Constance Dollet?
Mais pas du tout. Pourtant, il y a eu encore récemment, on ne sait pas si c'est un braquage, mais il y a un conducteur d'un fourgon blindé qui s'est enfui ou qu'on a séquestré avec beaucoup d'argent, là, mais non, je ne me souviens pas du braquage de Toulouse.
Bah vous nous racontez, vous resituez très rapidement, Gilbertin. L'histoire de ce braquage en 88.
Bon, mais oui.
Vous êtes combien?
Nous sommes une demi-douzaine.
Ouais.
Une demi-douzaine et bon.
Des musiciens.
Des musiciens, des anarchistes.
Des artistes.
Des séparatistes basques. Et voilà, et on entreprend de braquer cet entrepôt de la Brinks.
À Toulouse.
À Toulouse.
Déguisé en gendarme.
Voilà.
Qui a eu l'idée de ça?
Et c'était la seule façon de rentrer sans tirer un seul coup de feu. Donc voilà, il fallait se déguiser et jouer, faire du théâtre, quoi.
Ouais, d'une certaine façon. Et ça a bien marché. Alors aujourd'hui, c'est un livre qui revient sur les 30 ans de cavale qui ont suivi, bien sûr, ce braquage. Votre reddition en 2016 avec la stupéfaction des flics qui vous disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Vous n'étiez pas bien en Espagne ?» En retraçant ces quelques années, qu'est-ce que vous avez compris de votre parcours, Gilles Bertin ?
Bon, c'est difficile. Hein. 30 ans, c'est toute une vie. Hein. Ouais. Bon, évidemment, durant ce laps de temps, moi, je suis réinséré peu à peu.
Hors de France.
Hors de France, et je me suis mis à travailler de suite, en fait. Hein. Deux années après, je montais cette boutique à Lisbonne.
Une boutique de disques.
De disques, ouais. Donc, je revenais à la musique. Et donc, je revenais vers ce que j'aimais. Et j'ai commencé ma réinsertion sans le savoir, sans m'en rendre compte.
Mais c'était quand même bien la peine d'avoir braqué une banque pour se remettre à travailler 2 ans plus tard.
Ah oui, mais bon, j'étais arrivé au bout de ce que je voulais faire. Je crois que je me suis rendu compte que ça n'avait plus aucun sens, cette vie. Puis j'avais coupé avec ma famille, avec mes amis, avec une certaine vie, avec ma vie, quoi. Et bon, il fallait que je recommence à zéro, quoi.
D'ailleurs, vos proches de l'époque pensaient que vous étiez mort.
Ouais.
Parce que vous aviez complètement disparu des radars.
Le bruit a couru, oui. Oui, parce que je coupais complètement les ponts.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Constance Dolé, ça marche très fort pour vous au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Salle pleine, grosse émotion quand j'y étais. Rassurez-vous, je ne vais pas spoiler la pièce. C'est tout ça l'enjeu de cet entretien. C'est un monologue, celui d'une femme dont on apprend qu'elle a été mariée, qu'elle a eu 2 enfants, particulièrement turbulents, très vivants. Cette femme se raconte et invite sur scène 4 spectateurs à partager son repas. C'est la scénographie. C'est dans le texte ou c'est une idée de Mélanie Leret qui signe la mise en scène?
C'est une idée de Mélanie Leret.
Ah, d'accord.
Puisque nous sommes allés voir la pièce montée à Londres il y a 1 an à peu près, pratiquement jour pour jour, et que Carey Mulligan, qui interprétait la pièce à Londres, s'adressait au public comme dans un stand-up, et ensuite avait des scènes dans un appartement réaliste avec ses enfants. Mais c'est une idée tout à fait que Mélanie a eue.
Et ça aide d'avoir 4 spectateurs sur scène à qui on s'adresse, parce que ça fait une double audience. Il y a les gens autour de la table avec vous, et véritablement vous leur parlez, sans oublier le reste. Moi j'étais dans la salle. Ça aide d'avoir 4 spectateurs sur scène avec soi. Ça change quoi, en fait?
Ce que ça change, c'est la focale. C'est-à-dire que vous devez gérer en permanence, et ça, c'est pas une mince affaire, mais c'est intéressant en soi, le fait d'être à la fois en gros plan et en plan panoramique. Et surtout que ça permet aussi, je crois, aux spectateurs qui se trouvent dans la salle, c'est ce qu'on me dit en tout cas, de pouvoir se voir eux-mêmes comme une fractale, écouter et regarder la réception et les émotions qu'ils auraient pu ressentir s'ils avaient été sur le plateau.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est comme un Roland-Garros, on regarde le tennis via les gens qui regardent le tennis. Et ici, moi, je regardais certaines spectatrices à table pour voir comment elles réagissaient. Vous les regardez tout le temps, vous vérifiez, vous les contrôlez, en fait, ces spectatrices.
Je suis peut-être comme vous dans les émissions de radio avec un œil qui est sur la l'horloge.
Pendule, ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que j'ai toujours à cœur de sentir dans quelle vibration sont les personnes qui sont à table, la température, le voir s'ils sont pas trop brusqués ou au contraire aller les rassurer. Donc en fait, c'est comme un joueur au cirque qui fait tourner ses assiettes en évitant qu'elles s'arrêtent, quoi.
Il y a eu quelques invités qui ont véritablement joué plus que le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à boire, qu'ils sont resservis, qu'ils ont mangé plus que de raison.
Manger, il n'y a pas trop à manger, non. Malheureusement, mais en tout cas, bu, oui, manifester des émotions, manifester, avoir des regards qui accueillent le mien de manière plus facile, on va dire, oui.
Alors, pour tous les spectateurs qui vous ont vu, vous étiez aussi Suzanne dans la série Le Village Français sur France 3. 2010-2018, c'est pas 30 ans de cavale, mais c'est quand même 8 ans de série.
Ouais.
Ça vous manque?
Ce qui me manque, c'est peut-être de pas avoir autant que je l'aurais voulu ou que je le souhaiterais mes camarades que j'adore. Mais par ailleurs, comme j'ai fait, je suis sortie de la série finalement en faisant un documentaire de 52 minutes dessus avec Emmanuel Breton. Ça a été ma manière de dire au revoir à cette aventure.
Mais justement, c'est assez stupéfiant. Pour quelle raison aviez-vous besoin de faire un documentaire sur la série que vous étiez en train de tourner? C'était pour trouver une distance par rapport à votre personnage?
Parce que je trouvais que toutes les personnes qui vont collaborer tant techniquement qu'artistiquement autour de ce projet-là sont des personnes tellement merveilleuses que de partager avec elles cette expérience, ce point de vue qui n'est pas forcément qu'on peut pas appréhender comme ça en voyant la série, c'était aussi une manière de rendre hommage à tous ces moments de vie et d'intimité qu'on avait pu partager ensemble et puis de garder une trace. Moi, j'ai un vrai problème avec la mémoire pour ça, quoi.
C'est vrai ?
Ouais. J'adore.
Des trucs de mémoire sur scène, ça existe?
Ah non, non. Bah oui, ça existe, bien sûr, mais c'est pas tant ça. C'est que j'ai besoin toujours de garder des traces de ce qui s'est passé et d'avoir des petites choses comme ça. Je suis un peu fétichiste, peut-être.
Le village français, ça vous dit quelque chose, Gilbertin?
Non, absolument pas.
Bah non, mais vous voyez, vous êtes à égalité, tous les deux. Alors, pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé des sons à chacun et chacune. Un son de messe pour vous, Constance Dolé.
Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie.
C'est super d'ouvrir par ce son de messe. Pour quelle raison? En quoi ça vous a marqué?
Les moments où j'allais à la messe, c'était vraiment des moments où c'était la possibilité pour moi de vagabonder, parce que on va dire franchement que je m'embêtais. Enfin,
vous emmerdiez.
Ouais, emmerdiez très fortement. Après, il y avait des homélies de temps en temps quand même qui m'intéressaient, mais c'était pour moi l'occasion de me dire voilà, où est-ce que j'en suis. C'était un moment de recueillement, et surtout cette espèce de chose en moi très très schizophrène qui était cette obligation que j'avais d'être attentive, etc. Et en même temps, l'envie de sortir des grossièretés, de vouloir hurler des choses hyper obscènes, où je me disais, bah, en fait, je peux le faire si je le souhaite là. Donc voilà, c'était drôle comme expérience de jouer à la fois au petit ange et au démon, quoi.
Un son espagnol pour vous, Gilbertin.
Ahora, en Radio 3, la mejor selección musical con Virginia Díaz. Comienza 180 grados.
Et c'est même un son de radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oui, parce que c'est exactement ce que j'écoutais pendant 16 ans lorsque je travaillais au bar. C'est la première chose que je faisais, c'est mettre la radio et Radio 3. Et c'est vraiment cette radio qui m'a accompagné durant ces 16 années. Ouais.
Vous travaillez dans un bar. Après, donc, oui. Il y a eu le magasin de disques, ça c'était au Portugal. Et en Espagne, un bar.
Un bar, oui. Un bar qui appartenait à la famille de ma compagne, hein, ouais. et que maintenant on gère, quoi.
Maintenant vous gérez ce bar.
Nous gérons le bar, oui.
Vous vivez où actuellement, Gilbertin?
À Barcelone. Et on gère toujours ce bar. Et on écoute toujours Radio 13.
Et votre identité a été révélée depuis, j'imagine, depuis votre réédition en 2016. Les gens savent qui vous êtes véritablement?
Oui et non. Nos plus proches, oui, ont compris. Les proches amis, les clients fidèles, oui, ils le savent. Le reste de la population...
Non, j'imagine quand même. Oui.
Voilà, j'essaye d'être discret quand même et ne pas en faire étalage.
Un son de musique de film pour vous, Constance Dolé. Vous teniez à ce moment très précis de la bande originale de quel film ?
Il était une fois en Amérique. Un chef-d'œuvre absolu pour moi, un film dont je, enfin, qui est comme, je sais pas, ça a été un tel choc, une telle révélation. La synthèse de thématiques, d'esthétique, de jeux, enfin. Voilà, j'ai une émotion incroyable quand rien que de réécouter cette musique-là, parce que tout y est dans ce film. Il y a tout pour moi, il y a tout, et je pourrais le regarder jusqu'à la fin de ma vie.
La première fois que vous l'aviez vu, c'était à quel âge?
Mais j'étais pas si jeune que ça. En fait, j'ai dû le voir peut-être à 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Et puis on m'avait dit, oh, tu verras, c'est un film, il est un peu long, ça dure plus de 3 heures. Et je me suis dit, oh non, j'ai pas envie. Et puis alors là, je suis sortie de là, mais j'étais vraiment bouleversée. Je savais que ma vie serait plus jamais la même. C'est bizarre, hein, mais oui. Vraiment.
Vous étiez déjà actrice?
Oui, je prenais des cours déjà, oui.
Vous avez joué quel rôle?
Oh, moi, j'ai toujours, enfin, au départ, quand j'étais au conservatoire, j'avais un emploi qui était celui de la petite soubrette, irrévérencieuse, voilà, etc. Et puis, peut-être 2 ans après, j'en avais un peu marre de jouer ça. On m'a dit, mais toi, en fait, il faut que tu joues Portia dans Jules César. T'as une espèce de possibilité de jouer les tragédies qu'il faut aller explorer, quoi.
Eh ben, vous ne vous en privez pas, il suffit d'aller au théâtre de la Porte Saint-Martin pour le vérifier. Musique aussi, mais avec un autre rythme pour vous, Gilbertin. Ça, Ça doit être fondateur, j'imagine, Gilbertin.
Oui, il y a eu un avant et un après les Sex Pistols. Ça a changé ma vie. De la même façon que ce film a sans doute changé la vie de cette jeune femme, moi, ça a changé ma vie et ça a tout bouleversé.
Et il y a eu un avant et un après. Un avant, c'était quoi ? Vous étiez quoi ? Qui ?
Oh, ben, j'étais un enfant encore. J'étais un adolescent, quoi, avec ses problèmes, etc. Mais bon. Là, le fait d'écouter quand le punk est arrivé, ça a complètement bouleversé ma vie, quoi.
Et vous êtes devenu
punk. Et surtout les Sex Pistols, surtout ce morceau. Ouais.
Vous saviez jouer de la musique avant d'écouter ça ?
Oui, je commençais à tatouiller un petit peu. Ouais.
Quel répertoire ?
Oh, ben, du rock'n'roll. Hein. Ouais. Avant, j'écoutais aussi du rock'n'roll. Hein. J'écoutais les Slade, le glam rock, hein, ce qu'on écoutait quand on était jeune, quoi.
Ensuite, il y a les
70. David Bowie, T-Rex, etc.
Ah ouais, toute cette génération-là. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous écrivez votre livre, vous écoutiez quoi comme musique ?
Oh, j'écoute plus trop de punk rock. J'en écoute encore, hein, mais c'est plutôt de la musique populaire américaine, la soul, du blues, de la Northern Soul. Hein, c'est la version anglaise. Voilà, j'écoute surtout ça maintenant.
Vos années disquaires, ça vous manque ? Vous aimiez ça ?
Ah oui, on découvrait plein de choses. C'est comme un libraire. Hein, on vendait des objets. En plus, c'est joli, des disques, des vinyles.
C'était la bonne époque.
C'est passionnant. Hein.
Ouais, aujourd'hui, ça serait terminé de toute façon.
Non, là, c'est terminé. Ouais.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oh, c'est chacun. La vérité nue. La vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague d'âme, oust chouka. Un vague d'âme, oust chouka.
Le Les Nuits Bleues de Bertrand Belin, il était en live dans le NRV le 30 janvier. La session est toujours visible en vidéo. Il sera en concert à l'Olympia à Paris le 10 avril. Bertrand Belin, que vous connaissez bien, Constance Dolé.
Que je connais bien, en tout cas.
Que vous connaissez bien.
Non, on avait des amis communs. Ce qui est drôle, c'est que, à l'époque, quand on était jeunes, on va dire, c'est débile, mais on avait une copine photographe à qui on avait demandé de faire une espèce de campagne de pub pour les tennis magasin Courir, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc, on était les deux sur le poster. Et je me souviens surtout qu'on s'était fait vraiment un peu arnaquer, entre guillemets, parce qu'il nous avait donné un bon d'achat de 500 francs pour aller s'acheter des baskets en échange de la photo. Et voilà, on en a rigolé après, mais c'est...
Donc, Bertrand Belin a été un poster boy avec vous, donc, à cette époque-là.
Ouais, c'est vrai.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Cette chanson, ce tube, ça vous rappelle quelque chose, Constance Dolé?
Oui, bien sûr, c'est la chanson de la fin du spectacle. Ouais. Bah oui, c'est voilà.
Une chanson qui raconte quelque chose de ce qui a pu se jouer pendant cette pièce.
Oui.
C'est un son que vous aimez bien aussi, vous, l'ex-punk?
Dépêche-mode, j'ai appris à apprécier.
Oui,
c'est venu avec le temps. À l'époque, je détestais.
Ah bah, je peux imaginer, quand on fait du punk, on devait détester cette partie de la New Wave. Alors, ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend donc à la toute fin de Girls and Boys, la pièce que vous jouez au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Texte signé Denis Kelly, qui est un dramaturge anglais. Mise en scène de Mélanie Leray. C'est le monologue d'une femme qui se confie lors d'un repas. Vous avez invité 4 spectateurs à partager votre table. On en a parlé tout à l'heure. La première phrase, pour planter le décor, je vous la laisse donner.
J'ai rencontré mon mari dans la file d'embarquement d'un vol EasyJet et je dois dire que cet homme m'a tout de suite déplu.
Et ça démarre comme ça, comme un jeune massacre. Carte d'identité de votre personnage, quel âge à peu près là?
Oh, je pense qu'elle doit avoir 40-45 ans.
Profession?
On ne connaît plus trop sa profession, enfin en tout cas elle a travaillé dans le domaine du film documentaire.
Où elle a particulièrement réussi?
Oui.
Contrairement à son mari?
Contrairement à son mari qui lui a très bien réussi à une époque de sa vie et puis qui a vu... le commerce changé avec lequel il a eu des difficultés, enfin vis-à-vis duquel il a eu des difficultés à s'adapter et donc qui a vu son commerce péricliter. Oui.
Situation familiale. Ah, c'est un piège. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Oh bah c'est.
Elle a été.
Elle est mariée et mère de 2 enfants.
Et politiquement de quel bord? Parce que ce qui est intéressant dans la pièce, c'est pas simplement la situation familiale, c'est aussi la vision qu'elle a de la société dans laquelle elle vit.
Bah, c'est clairement une femme de gauche, enfin, je pense, qui vient d'un milieu quand même très modeste. On a quelques petites occurrences comme ça, mais on devine qu'elle vient d'un milieu qui est pas du tout un milieu aisé. Et donc, c'est une femme qui s'est faite toute seule d'une certaine manière. Elle a rencontré des personnes qui lui ont donné une certaine autorisation à épanouir des qualités qu'elle avait chez elle, mais qu'elle ne voyait pas forcément. Et ça, c'est merveilleux dans la vie quand on rencontre des personnes qui sont des déclencheurs positifs.
Ça a été pour vous?
Bien
sûr. Pour vous?
Oui, bien sûr que ça a été le cas. Déjà, j'ai eu des parents et des grands-parents incroyablement aimants et encourageants. Et puis, voilà, il y a des circonstances dans la vie, des situations très précises qui ont fait que j'ai eu des ruptures claires et nettes avec des situations de vie. Mais comme ça s'est passé en un quart de seconde.
Vous pensez à quoi?
Je pense au fait que moi, j'étais plutôt... j'étais programmée pour faire des études universitaires longues. Et j'étais en classe prépa pour préparer Normale Sup. Et puis, un beau matin, j'ai vu un sujet sur le tableau pour des concours blancs. Et j'ai regardé ce sujet et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ça ma vie. Et je me suis levée, je suis sortie de classe et j'ai renoncé à continuer, quoi.
Et parallèlement, vous aviez des études de théâtre?
Parallèlement,
Enfin,
en tout cas, c'est à la suite de cet événement-là que je me suis inscrite au conservatoire du 10e arrondissement.
Vous, il y a eu des déclencheurs positifs de votre côté, Gilbertin, dans votre parcours?
Non, aucun.
Aucun, ouais.
Non, malheureusement, non.
Vos parents, par exemple, quand vous êtes devenu musicien et puis...
Bon, j'étais en rupture avec ma famille, donc non, il n'y a pas eu de déclencheur positif, en fait.
Les déclencheurs sont arrivés plus tard.
Oui.
Ouais, des rencontres amoureuses qui ont été déclencheurs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est
ce que l'on peut voir dans... il ne faut quand même pas les oublier. Oui. Ils sont deux et très importantes dans le livre, on va en parler. La pièce commence sur le ton de la comédie avant de trouver un autre registre. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que vous travaillez ce qu'on va dire le drame ou des rôles sombres, alors que quand on vous voit, quelque chose de très très enjoué chez vous. Vous avez été la mère d'une fillette décédée dans la série Les Revenants, une fliquette traumatisée par le meurtre d'un enfant dans Malaterra. Vous êtes une championne de la tragédie.
Constance Delay. Championne de la tragédie, disons que ce sont des émotions qui ne me font pas peur et qui m'intéressent à travailler, oui, bien sûr. Et puis ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'arriver à ciseler comme ça ou à faire émerger des choses qui ne sont pas forcément données quand on vous regarde la première fois. C'est vrai que moi, j'ai plutôt un physique, on va dire, rond, enfin... souriant, voilà. Ce qui se travaille d'ailleurs, hein, par ailleurs. Hein. Je tiens à le préciser, je suis pas une ravie de la crèche. Hein. Je trouve que tout ça, ça se domestique et ça se veut, ça se désire. C'est un choix que j'ai fait. Mais par ailleurs, voilà, ça ne veut pas dire que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, qu'on n'est pas traversé tous par des émotions très contraires et complexes.
Des émotions même difficiles. J'ai pu lire, et je crois que c'est d'ailleurs dans votre fiche Wikipédia, parce qu'on regarde toujours ça auparavant quand on rencontre. Et j'avais un détail assez stupéfiant, c'est-à-dire que je lisais qu'un drame était à l'origine de votre arrivée au théâtre. Vous voyez de quoi il s'agit ?
Oui.
Pour que ce soit marqué comme ça aussi.
Ah oui, j'ignorais que c'était dans la fiche Wikipédia, mais c'est vrai. Oui. Ça fait partie de ces éléments déclencheurs. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire donc c'était le drame arrivé à une amie, je crois,
et voilà.
Qui vous pousse au théâtre.
Ce drame-là, oui, m'a en fait a fait que ma vie à l'époque a été calcinée. Et voilà. Et donc vous reconstruisez.
Par le théâtre ? Le théâtre a été réparateur, alors ?
Le théâtre, ça a été, au départ, comment dire, une espèce de viatique pour dépasser ça, entre autres choses, parce qu'il y en a eu bien d'autres. Mais oui, ça a été, vous savez, c'est des événements dans votre vie où, tout à coup, vous faites une espèce de mise au point, il y a un éclairage sur ce qui vous arrive, ce que vous avez décidé dans votre vie, et puis la volonté de prendre les choses en main de manière beaucoup plus évidente. Oui.
Alors là, vous êtes seule sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin. Est-ce que ça peut vous donner envie de faire du one-man show ?
Non.
Pas du tout.
Non.
C'est pas du tout votre registre.
Non, je sais pas, peut-être que ça le... Enfin, en fait, je peux pas vous dire ça comme ça dans l'absolu, mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver d'être seule sur scène et d'avoir les compétences pour assurer un spectacle plutôt comique, on va dire.
Comment vous choisissez vos rôles ? Qu'est-ce qu'ils doivent vous apporter ?
Je trouve d'abord que c'est une histoire à l'intérieur de laquelle le personnage qu'on me propose est un personnage qui offre la possibilité d'aller explorer beaucoup de champs, évidemment d'émotions, mais aussi de pensées. Je trouve que c'est très rare aujourd'hui d'arriver à trouver des textes qui offrent cette possibilité-là, tant dans les scénarios pour l'audiovisuel qu'au théâtre. Or moi, j'ai une formation de philo, puisque j'ai quand même, après les classes prépa, continué ma formation à la fac. Et si j'ai pas ça, je suis malheureuse. Je dois pouvoir le lire, pouvoir l'éprouver et pouvoir surtout aussi le partager.
C'était facile donc d'avoir ce parcours de comédienne, parce que c'est pas donné d'avoir des textes de cette qualité-là. Par exemple, ce texte est formidable pour ça, puisque c'est un drame familial, peut-être, mais aussi il y a toute la dimension sociale et politique du personnage.
Évidemment, ouais, c'est la dimension politique qui me plaît. Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été si heureuse sur Le Village Français. Je trouve qu'on vous offre des opportunités de scène où ça débat, où ça polémique, où ça pense, où ça offre des pistes de réflexion à chacun ensuite. Mais oui, c'est pas pour vous répondre, c'est pas évident, mais ça nécessite d'avoir une espèce de colonne vertébrale quant au désir qu'on a d'exercer ce métier-là, qui vous font dire non, de temps en temps. Bah oui, bien
vous
sûr.
Dites non souvent ?
Bah oui, quand ça ne me plaît pas et quand je peux me le permettre,
oui,
d'une certaine manière. Ah oui, après, vous savez, il faut savoir nager en eau trouble hein, dans cette vie.
Vous avez déjà été malheureux sur un plateau ?
Oui. Oui.
Je ne vais pas vous demander.
Non, mais bon, si, non. On est malheureux parce que tout à coup, on s'aperçoit que les personnes avec lesquelles on travaille ne sont pas des personnes avec qui on peut forcément bien s'entendre. Parce que je trouve que c'est aussi énormément ça. Arriver à produire quelque chose dans la création qui vaille la peine, c'est d'être dans une forme de joie, de communauté d'esprit, voilà, et qu'on a toujours des partenaires et des collaborateurs avec lesquels il faut qu'on se sente bien et à l'aise et heureux. Et ça m'est arrivé, oui, de tomber, surtout au début. Au début, on les choisit pas, les personnes avec qui on travaille, qui sont des personnes qui sont pas des personnes très chouettes.
Vous avez toujours été heureux sur scène quand vous étiez musicien ?
Oui, oui. Ouais. Sur scène, à cette époque, j'étais vraiment dans mon état.
Votre état ?
Dans mon état, voilà.
Dans l'état dans lequel vous étiez à l'époque.
Ouais, on était toujours bourré, mais bon.
Oui, c'est ça, oui, non, mais c'est ça, c'est ce que vous dites tout à fait, ouais.
Non, mais vraiment, j'étais vraiment à l'aise, ouais. Je me sentais bien, alors que je suis quelqu'un de timide dans la vie, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des concerts particulièrement dramatiques quand même? Parce que quand on fait du punk, on se retrouve quelquefois devant des spectateurs.
Oui, c'était un peu dur. On avait quand même un public dur. Hein. On avait des skinheads, des punks. Mais bon, ça n'a jamais été dramatique. Hein. Il y a eu quelques bagarres. Bon, ça n'a pas été plus loin que ça. Faut pas non plus exagérer.
Quand on vous regarde, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer tout ce parcours dont on va parler dans quelques instants. Je voudrais juste revenir à la pièce qui travaille des registres différents avec vous, Constance Dolé, des temporalités différentes. Vous vous adressez à vos invités et parfois vous êtes commenté par des scènes familiales et alors vous vous adressez à vos enfants. Quelle est la difficulté de la pièce? Parce que vous seul connaissez l'issue, vous seul savez où vous allez amener vos spectateurs qui au départ sont...
Ah ben ils sont vierges de tout, c'est-à-dire ils savent pas.
Mais qui au départ rit, c'est-à-dire qu'il y a une dimension comique au départ.
Ah ben bien sûr, ouais. Bien sûr, et c'est ce qui est génial dans cette pièce, et surtout dans ce que savent très 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 bien faire les Anglais en particulier, c'est de jouer sur plein de registres, comme vous le disiez. Politique, d'abord politique, comique, moins comique, et de mêler ça avec une espèce de dextérité et de plaisir qui doit le devenir pour l'interprète aussi. Donc voilà, enfin c'est vrai que au départ, on attrape les gens par la douceur, je crois, enfin de manière générale, par la douceur, par le rire, par le pas de côté.
Quand vous êtes allé voir la pièce, c'était à Londres, c'est ça?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez retenu à ne pas faire quand vous avez vu l'actrice qui jouait votre propre rôle aujourd'hui?
Je ne parlerai pas de ce qu'il ne fallait pas faire par rapport à ce qu'elle faisait, elle, parce que j'adore Carey Mulligan et que je la trouve fantastique. Mais plus, j'avais à cœur de me dire, tâchons de ne pas faire de cette pièce quelque chose qui serait anti-homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment de garder que que fondamentalement, ce dont parle la pièce, c'est pas que on va diviser la communauté entre les femmes et les hommes, mais plus de réfléchir à ce que c'est que l'espèce. Ce que permet plus d'ailleurs l'anglais, puisque quand on dit men ou human beings, oui, bon, en français, c'est plus tendancieux cette chose-là, vous voyez? Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de faire en sorte, nous avions à cœur, pardon, de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ça.
Vous avez révisé la traduction?
Nous avons travaillé à la traduction.
Ah, vous avez travaillé à la traduction?
Avec Philippe Lemoine.
Me suis demandé justement si le texte était traduit avant de le jouer.
Il était traduit dans une version qui a été beaucoup, beaucoup affinée ensemble, oui.
C'est ce qu'on peut vérifier dans Girls and Boys, c'est au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. D'ailleurs, pourquoi avoir gardé le titre en anglais?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être un choix des éditrices.
Pour rester avec nous, Constance Dolé, on va parler punk avec vous, on va parler braquage avec Gilbertin. Direction Bordeaux tout de suite, les années 80 et le son de Camera Silence. C'est vous, Gilbertin, qu'on va entendre à la basse et au chant.
Pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire, hey. rendez-vous.
Bonsoir. Hold-up avec prise d'otage la nuit dernière à Toulouse, montant du butin 15 millions de francs.
France Inter.
C'est la société de transport de fonds Brinks qui a été prise pour cible. Un gang particulièrement bien organisé qui a procédé tranquillement, tout d'abord au domicile d'un cadre de la société et ensuite au dépôt de la Brinks.
Laurent Goumard.
J'imagine que ça rappelle des souvenirs, Gilbertin.
Oui, évidemment.
Évidemment, puisque vous écrivez un livre sur cette aventure. Oui, quoique.
Quoique, en 30 ans, j'avais fini par complètement oublier cette histoire. Moi, j'avais fait, je m'y suis remis depuis que je suis revenu, depuis que je me suis rendu à la justice.
En 2016, ouais.
En 2016, mais j'avais oublié toutes ces histoires.
Pour autant, vous étiez en cavale, c'est-à-dire, enfin, en cavale. Oui, c'est ça. Le titre, c'est 30 ans de cavale.
30 ans de cavale, au bout de 30 ans de cavale, on n'est plus en cavale, on travaille, on se lève le matin à 6 heures. Bon, je venais d'avoir un enfant, on s'occupe de son gosse. Voilà. C'est presque une vie normale, quoi.
Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vous rendre?
Ben justement, la venue de ce gamin, quoi. Mm. On ne pouvait pas continuer comme ça. On ne pouvait pas continuer à mentir, à raconter des salades tout le temps.
Ah, et puis surtout pour des papiers. Quand on est aussi malade, il faut avoir des papiers pour pouvoir être remboursé. Enfin, c'était tout un.
Oui, mais ça, je l'avais fait durant les 20 dernières années. Hein. Mm. J'avais un petit peu triché avec la sécurité sociale à droite, en Espagne, au Portugal.
En Espagne et au Portugal, ouais.
C'est surtout mon enfant, la naissance de mon deuxième enfant qui m'a décidé à me rendre.
Alors, vous racontez tout cela véritablement dans le livre. Mmh. Vous parlez surtout de la réaction, à un moment donné, vous parlez de la réaction des médias dans 30 ans de cavale sur le fait que vous étiez en flic pour ce braquage. Comment les médias ont raconté cette histoire? Parce que vous êtes en train de lire les journaux ou en train d'écouter la radio, on vous voit hurler de rire avec vos oui. collègues sur la façon dont ce braquage a été perçu par les médias à l'époque et par la police.
Là, on hurle de rire, on fait référence à un article de La Dépêche, hein, du ouais. Midi. C'est assez drôle parce que, en province, il n'avait pas grand-chose à raconter. Alors, évidemment, l'article est drôle. Bon, oui, des tas d'histoires ont circulé sur les auteurs, etc. Personne ne s'attendait à ce que ce soit des gens comme nous, quoi.
C'est-à-dire des musiciens.
On parlait du
grand banditisme.
Du grand banditisme. On a même évoqué à l'époque Francis le Belge, des conneries, quoi.
Alors même que c'était des musiciens, des artistes, des militants.
Oui, des anarchistes,
ouais.
Des jeunes immatures en colère, quoi.
Vous aviez des antécédents avant ce braquage?
Judiciaire,
oui, mais des antécédents de braquage, véritablement. Il y avait des petits trucs par-ci, par-là, mais pas de choses aussi énormes.
Oui, il y en a eu, oui. Je peux en parler maintenant parce qu'il y a prescription, hein, sinon je ne pourrais pas en parler.
Il y a prescription.
Voilà.
Qu'est-ce que vous espériez avec ce braquage?
Pas grand-chose, en fait. C'était une espèce de challenge, quoi. Une espèce de défi. Et puis après, on n'avait absolument pas prévu l'après-braquage, ouais. On ne se projetait pas dans l'avenir, on vivait le moment présent. Enfin bon, c'est le propre du délinquant, hein. On vit l'immédiat et après on s'en fout, quoi.
L'argent était planqué où?
L'argent est resté planqué dans mon sac de sport, quelque part en Espagne, pendant quelques temps, jusqu'à le dépenser, quoi.
Ouais, et chez votre copine aussi, qui était dans un sac sous le lit, véritablement. Donc...
On l'a mis sous le lit, et puis voilà.
Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de projet de vie véritablement
non, absolument pas.
Le livre, c'est l'histoire donc de cette cavale, le Portugal où vous ouvrez un magasin de disques, l'Espagne ensuite, avant de vous rendre en 2016. Le plus dur en cavale, ça aura été quoi en fait pour vous?
Bon, moi, il se trouve que je suis tombé malade en cavale. Alors, ça a été très dur, évidemment. Tombé malade, et pas n'importe quelle maladie. Hein. C'est une maladie mortelle, le sida. Bon, voilà, ça a compliqué les choses encore plus, quoi. Donc ça, c'était un moment dur. Ensuite. Et ensuite, on finit par devenir invisible, hein, à force. Au bout de 30 ans de cavale, on n'existe pas administrativement. C'est ma femme qui s'occupait de tout. Et petit à petit, on devient, sans s'en rendre compte, invisible, quoi.
Alors, c'est assez marrant que vous parliez de ce terme d'invisible, parce qu'il y a une photo, il y a un carnet photo à l'intérieur. Donc, on vous voit très jeune pendant les concerts, avec le torse tatoué. On vous voit à différents moments de votre vie. Et la dernière image, c'est vous de dos. Et c'est une image qui est passée à Libération à l'époque. Elle représente quoi, cette image, vous de dos, après la reddition?
Oui, voilà, mais je voulais pas de photo. De toute façon, je voulais pas, je ne voulais pas de photo du tout, en fait. Le journaliste a insisté, et je lui ai dit, bon, alors, on fait une photo de dos. Voilà. je ne voulais pas, je voulais rester discret, quoi.
Mais aujourd'hui, quand vous écrivez un livre, qu'est-ce que vous espérez avec un livre pareil? Parce que vous sortez de la discrétion, là.
Oui, mais je n'espère pas la célébrité. Je ne veux pas, j'écris un livre, ça m'a fait du bien. Hein. C'est une espèce d'autopsychanalyse. Ça m'a aidé à reconstituer toute cette époque que j'avais fini par oublier. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi aussi j'étais passé d'un truc à l'autre.
Oui, parce que le livre revient aussi sur une sorte d'autoportrait, c'est-à-dire vous parlez de vos origines et vous dites que la conscience de classe, vous l'aviez dès le départ. De quelle conscience de classe vous parlez ?
Je viens d'une famille, mon père était communiste, alors donc on l'avait, c'est presque génétique. Là. Mon père était ouvrier, et j'ai très vite compris qu'on était, on faisait partie de la classe ouvrière. Même si par la suite, mon père a travaillé et a su s'élever. Hein, mais j'avais cette conscience très jeune, quoi.
Mais en devenant musicien, punk, puis braqueur, est-ce que vous avez eu conscience d'avoir trahi cette classe sociale, justement ?
Non, parce que je me suis rendu compte que je ne voulais absolument pas vivre la vie de mes parents. Mes parents étaient malheureux, peu importe la classe dans ces cas-là. Donc, mes parents étaient malheureux, je ne voulais pas, absolument pas recréer le même schéma, quoi.
Et quelle était votre conscience politique ? Parce que vous parlez du fait que vous vous êtes construit politiquement, mais une sorte de gloubi-boulga avec des idées glanées par-ci, par-là, notamment avec ce groupe Camera Silence. Et pourtant, Camera Silence, c'est un nom qui a un rapport très précis avec... peut-être que vous pourriez nous expliquer exactement de ce dont il s'agit.
Oui, c'est le nom qu'on a donné aux cellules d'isolement sensoriel dans lesquelles on enfermait les membres de la fraction Armée Rouge dans les années 70. Parce que faut se rappeler que c'était les années de plomb. Hein, c'était une autre époque, le siècle dernier. Alors bon, mais bon, on a notre conscience politique.
Elle était faite de tout et n'importe quoi.
De tout et n'importe quoi. Faut être
de cette époque-là.
Voilà.
Et depuis, aujourd'hui.
Et depuis, les temps ont bien changé. Hein.
Ouais.
Le mur de Berlin, l'Union soviétique n'existe plus, et ça ne va toujours pas. Hein, on a affaire à un capitalisme global très agressif, et ça ne va pas. Donc,
vous avez fait partie du mouvement des indignés, parce que vous en parlez des indignés à l'époque.
Oui, ma femme a parti. Moi, je ne participais à rien du tout.
Hein. Ah bah vous étiez invisible.
J'étais invisible. Voilà. Mais oui, ça. En Espagne, il y a eu un petit moment, un petit souffle de révolution qui est vite retombé, malheureusement.
Alors, le livre est traversé par une bande-son, bien entendu celle de votre groupe. Mais moi, je vais vous faire entendre trois musiques liées à ce moment particulier du braquage. On commence par ça. Gilbertin qui écoute Kylie Minogue, à quelle occasion ?
Je n'écoutais pas Kylie Minogue.
Non, je sais bien.
Mais c'est vrai qu'on l'entendait partout. Ouais. On l'entendait partout.
Et ça passe à un moment très précis, en fait, dans le livre.
Dans un taxi.
Dans
le taxi, oui.
Le taxi qui vous mène
à Orléans. On est venu se fournir
en armement.
En armement et on a acheté les déguisements de gendarmes là-bas, à Paris, là, à la foire aux puces. On revient en taxi à Orléans parce qu'on ne voulait pas partir de Paris en train, parce qu'à cette époque, il y avait des attentats.
Oui, donc vous auriez pu être arrêté, simplement contrôlé. Et donc, vu tout l'arsenal que vous aviez, vous auriez été arrêté.
Et on entend cette chanson dans le taxi. Ouais.
Deuxième chanson.
Oui, ça c'est The Harder They Come.
De
Jimmy Cliff.
À quel moment ?
Quand on partage l'argent. Et là, oui, c'était le bonheur tout. Enfin bon, voilà, on fumait des joints en plus.
En plus, ça ne gâchait rien.
Et bon, voilà, c'était l'extase, quoi.
C'est vraiment le truc d'un film parfait, quoi, en termes de musique. Le dernier. You gotta fight! Et alors, les Beastie Boys, dans ce parcours?
Oui, quand on s'en va en Espagne.
Plein aux as.
Plein aux as, et la fête continue pendant 2 ans.
2 ans de fête.
Bon, deux mois très durs de fête, enfin très durs, très soutenus.
De fête et très soutenus, oui.
Parce que bon, l'Espagne, il faut savoir qu'à cette époque, l'Espagne, c'était vraiment bon, la fête continuelle. Hein. C'était l'époque en pleine transition. La Movida, très libertaire comme société.
La musique, vous en êtes où aujourd'hui, Gilbertin? Vous en faites toujours pour vous?
Si j'en écoute.
Non, si vous en faites.
Non, j'avais repris la guitare juste avant la naissance de mon fils, et puis j'ai dû abandonner, je cassais les oreilles à tout le monde. Et puis j'ai trop de travail, je gère un bar, et c'est trop de boulot, quoi.
La rédaction du bouquin.
Et puis, il y a eu ce bouquin. Ouais.
30 ans de cavale chez Robert Laffont, c'est signé Gilbertin. Vous restez avec nous, Constance Dolé et Gilbertin. Tout de suite, c'est la dernière partie de la première partie du Énervé. Je sais, c'est toujours un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple, avec Soro Solo.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui.
Soro Solo qui, chaque semaine, nous emmène dans un lieu particulier pour un rendez-vous musical. Ce soir, direction le festival Au fil des voix, c'est à Paris. C'est la combien d'éditions?
C'est la 12e édition. Et en fait, Au fil des voix, à la base, c'est une association qui a été créée en 2008 par Saïd. Et cette association...
Saïd Assadi.
Saïd Assadi. Et l'association a donné son nom au festival que l'association a créé. Et ce festival, tous les ans, en hiver, à Paris, propose une plateforme de création et de diffusion. Et Au fil des voix s'attache aussi à donner de la visibilité aux musiques des quatre coins du monde, comme cette cumbia qui vient de Colombie. Et ça, c'est un extrait de Rita qui vient de leur dernier album, Hijo de Tigre, Fils de Tigre. Et le dernier album du groupe, c'est donc le nom de ce groupe, Hijo de Tigre. Et le groupe s'appelle la Cumbia Chichara.
Il y a beaucoup de festivals, hein, Soro Solo en ce moment. Enfin, il y en a eu toujours beaucoup, notamment à Paris. C'est quoi la singularité d'Au fil des voix par rapport à d'autres festivals? Qu'est-ce que voulait Saïd Assadi au départ?
Parce que son festival se veut d'abord un festival de découverte de voix emblématiques, d'artistes confirmés ou de jeunes talents qui sont en développement. Et comme dit Saïd Assadi, le directeur artistique d'Au fil des voix, il développe entre autres des créations transculturelles.
C'est un festival atypique et évidemment met en scène les nouvelles créations et nouveaux répertoires inédits de l'artiste avec leur actualité discographique de l'année, que ça soit pop, rock, musique traditionnelle. Notre objectif, c'est vraiment essayer d'encourager les créations transculturelles.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce festival durant ces 12 années?
Par exemple, la cumbia chichara que j'ai vue dans le 20e à Paris, à l'Ermitage, c'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas ce groupe avant. On m'a dit qu'ils résident en France, mais composés et de Colombiens et de Français. Et ils vont mélanger dans leur musique aussi des, qu'on appelle des sons méditerranéens de leur région où ils habitent.
Tous les artistes sont payés d'une façon vraiment égale, 250 euros brut par chaque musicien, que ce soit les artistes émergents ou en développement ou confirmés. Et on essaye de créer une sorte de synergie entre le festival, le label et les tournois autour de chaque artiste et encourager beaucoup des programmateurs qui soient présents et essayer de créer des retombées pour tous ces artistes pendant le festival d'été et la programmation des saisons.
C'est facile ça de demander à des artistes confirmés d'être payés de la même façon que des jeunes artistes qui arrivent?
Je pense que ceux des artistes confirmés qui veulent faire découvrir leur musique par un autre public, ils l'acceptent bien volontiers. Et puis ils ont envie de partager la scène avec des jeunes qui arrivent. C'est une façon aussi de leur donner de la visibilité en leur permettant de profiter de leur aura, de leur visibilité.
Alors ça se passe à Paris, dans quelle sorte de lieu en fait ?
Il y a plusieurs salles, l'une des salles des premières salles que le festival Au fil des voix a occupé, ça a été l'Alhambra. Maintenant ils ont étalé sur d'autres salles dans Paris, comme l'Ermitage dans le 20e dont j'ai parlé, comme le Trianon, comme la Cigale ou comme le Bal Blomé. En tout cas, c'est une vingtaine d'artistes des quatre coins du monde que le festival donne à découvrir. Et parmi lesquels, le Nubian Twist, un collectif d'afro-blues venu de Londres et qui jouera le 16 prochain au Trianon. Pour terminer, je voudrais préciser que le nouvel album de Nubian Twist est disponible depuis ce mois de février. On est donc en plein dans leur actualité. Et le 16 février, avec le groupe français Arat Kilo de Mamani Keita, ils boucleront la 12e édition au fil des voix au Trianon.
Merci Soro Solo, on va se retrouver la semaine prochaine. Vous allez en concert, Constance Dolé ?
Ah oui, j'y vais beaucoup parce que en fait, mon mari, parce que je suis mariée depuis pas longtemps, adore ça. Donc on y va 2-3 fois par mois à peu près.
De votre côté, en Espagne, il y a une scène que vous suivez ?
Non, je n'ai plus l'occasion d'aller au concert. Malheureusement, je n'ai plus trop le temps, encore une fois.
Mais c'est pas possible, ce café vous travailler. Prend tout votre temps. Mais ils vous tiennent en esclavage dans ce café, familial.
Voilà, non, c'est quoi ? Mais bon.
30 ans de cavale, donc c'est chez Robert Laffont. Et puis je rappelle, Constance Dolé, que la pièce Girls and Boys se tient jusqu'au 2 mars au Théâtre du Petit Saint-Martin. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais saluer en fait dans cette entreprise l'admirable volonté de Jean-Robert Charrier d'avoir voulu programmer un texte aussi contemporain. Et le fait que ce montage se soit fait avec la compagnie donc, de Mélanie Leray, qui s'appelle la compagnie 2052, qui est une compagnie qui est plutôt subventionnée. Ouais. Et ce mariage entre le public et le privé, pour moi, est quelque chose qui doit absolument se répandre et j'espère se confirmer.
Ça commence notamment à Paris avec d'autres scènes, je pense à la Scala, je pense même au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Absolument.
Qui programme quelquefois des gens qu'on peut voir dans le, comme Joël Pommerat par
exactement.
Exemple. Donc il y a ce mix qui commence à se
travailler. Et que je trouve incroyablement intelligent finalement.
Il était avec Lee Fields, un des derniers héros de la soul américaine à l'ancienne, Charles Bradley, Can't Fight the Feeling, pour clore cette émission. Oh La voix et la fièvre de Charles Bradley sur France Inter. Et le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver après le journal, hein, avec ça.
Hello les fous!
Hello les imbéciles qui n'arrivent pas à être riches!
Mais oui, être riche en France, est-ce que c'est interdit? Le rendez-vous est pris? Alors à tout de suite.